Je vais lire pour commencer Luc 18, les versets 1 à 8. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, « Même si je ne crains pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Pour Jésus, la prière est vraiment importante. Toujours prier, mais sans se décourager. Parce que prier, c'est pas si simple. Prier, c'est finalement difficile. Et prier, on arrive vite à se lasser. Sans se décourager. On prie et Dieu répond. Franchement, on est reconnaissant. Et heureusement, ça arrive souvent. Et plus on prie finalement, plus on a l'occasion de prier, plus on a l'occasion d'attribuer à Dieu, de recevoir de Dieu ce qu'on a demandé. Mais tellement souvent, on prie des choses qui nous semblent justes. Et ça n'arrive pas. Et des fois, c'est des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, qui sont vraiment pour nous importantes. Il y a des frustrations dans la prière. Des fois, on a de la peine à distinguer les réponses et les non-réponses comme compréhensibles. On a l'impression que ça vient presque du hasard. C'est mystérieux, la prière. Et le fait qu'on la comprenne si mal rend peut-être difficile de persévérer. Mais c'est, tous ces temps, cette question de prière, je sais pas, elle me poursuit. Et ces derniers temps, on lisait avec Suzy l'évangile de Luc, et là on se rend compte à quel point Jésus prie. C'est l'évangile où on voit Jésus prier. Mais une chose qui m'a frappé, c'est qu'il donne très peu d'enseignements. Il explique très peu ce qu'est la prière. Et d'ailleurs, dans les Écritures, il y a très peu d'explications. Voilà comment ça marche, voilà ce que c'est. Et à la fois dans les Écritures et dans notre expérience, c'est plein de paradoxes. On peut lire des passages sur la prière dans la Bible, ça j'ai compris. Puis tout à coup, on lit un autre passage, ça joue pas, c'est pas la même chose. Comment mettre ça ensemble? Et c'est exactement notre expérience dans la vie de prière. C'est que finalement, on ne maîtrise pas cette prière. C'est impossible de faire une théorie de la prière, c'est impossible d'enfermer la prière dans un cadre. Ça nous dépasse. Mais Jésus, il donne quand même des enseignements sur cette prière. Cet été, j'étais déjà dans cette réflexion, je vous ai parlé de la prière du Seigneur, de notre Père. J'ai donné quelques indications là autour, quelques réflexions. Aujourd'hui, je suis tombé dans ce passage qui est un peu compliqué. On se demande ce que ça veut dire. Mais ce que Jésus nous dit, c'est qu'il devait toujours prier sans se décourager. Ça veut dire que dans ce qu'il va dire, il y a une clé ou une ouverture pour persévérer dans la prière, pour ne pas se décourager dans la prière. Je vous dis, c'est un passage un peu difficile quand on lit ça, on se dit, mais qu'est-ce que Jésus veut dire? Et franchement, quand on lit les évangiles, on se pose souvent la question, qu'est-ce que Jésus veut vraiment dire? Et je pense que ça nous montre à quel point notre manière de penser, notre manière d'être est finalement incohérente avec Jésus, loin de ce qu'il pense. C'est normal que ce soit difficile, on a un chemin pour comprendre. Les choses nous sont étrangères. Et c'est vrai pour la prière, mais c'est vrai aussi pour la manière dont Jésus nous approche et nous défier par des récits qui sont un peu difficile à comprendre. Il veut nous faire réfléchir, penser, et au travers de ça, il va nous parler d'une manière qui dépasse notre logique, peut-être, parce que on doit dépendre de lui et pas de notre logique. Pour comprendre cette parabole de, je ne sais plus comment on l'appelle, l'intendant malhonnête, c'était l'autre exemple. Celui-ci, c'est le juge injuste. La parabole du juge injuste. Pour la comprendre, il faut réaliser que ce n'est pas un modèle de comportement, un modèle pour nous, mais au contraire, c'est un contraste. Ça parle plutôt de ce qu'il ne faut pas faire, plutôt de ce qu'il faut faire. Et c'est assez clair d'ailleurs. Il suffit de voir qui est ce juge. Quel est ce juge? Il est dit qu'il ne craint pas Dieu. Il est loin de Dieu, il n'a rien à faire avec Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est un autre monde. Il ne craint pas Dieu, il n'a d'égard pour personne, il n'a aucune compassion pour cette femme. Ben, ce n'est pas Dieu. Et puis son motif d'action, ben ça le dérange. Ce n'est pas la justice, ça le dérange. C'est vraiment un autre monde. La veuve, elle a de vrais besoins légitimes. Elle a besoin de justice, elle est veuve, elle a de la faiblesse, elle a besoin des autorités pour recevoir ce dont elle a besoin. Elle a vraiment des vrais besoins légitimes, mais elle est dans un monde injuste. Et quelle est sa manière de réagir? Ben, le juge ne va pas faire son travail, ben, elle cherche à le forcer. Elle insiste jusqu'à qu'il cède. C'est nécessaire. C'est la manière logique quand on nous résiste dans ce monde de réagir. Et ça marche. Ça fonctionne, le monde, de cette manière-là. Mais, je dirais, souvent on a l'impression, et on nous dit, on pense, que finalement, cette insistance de la femme, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est une bonne chose, vraiment? Réfléchissons. Il y a le juge qu'on vient de décrire, mais comment est Dieu? Il le dit au verset 7. Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui nuit et jour? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. C'est un contraste total avec ce juge inique. C'est Dieu. Il y a un verset que j'aime beaucoup et que je vous ai cité d'innombrables fois, je pense, depuis au moins 20 ans que je vous prêche la parole. C'est le psaume 145, le verset 17, qui dit « L'Éternel est juste dans toutes ses voies, est bon dans toutes ses œuvres. » C'est une déclaration de ce que Dieu est profondément. Le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, il est juste dans absolument tout ce qu'il fait, et il est bon dans toutes ces choses-là aussi. Il a une action, une série d'actions, une attitude qui est toujours complètement juste et complètement bonne. Il est bon. Ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui nuit et jour? Il nous a choisis et il est sensible à ce qu'on vit. On crie à lui, il nous entend, il nous a choisis, on est à lui, on le sait de multiples manières, mais il est sensible à notre réalité. Il n'est pas indifférent du tout. Contrairement à ce Jujinik qui n'a qu'une envie d'être, c'est sa propre paix, c'est lui. Non, Dieu est pleinement, totalement attentif à nos besoins. Il écoute. Puis les justes, les fera-t-il attendre? Je vous dis, il le fera rapidement justice. On a l'impression souvent qu'il faut insister parce que les choses ne sont pas comme on aimerait. Il y a des délais, il y a des incompréhensions. Mais ce que ce passage nous dit, c'est que tu es juste et il fait les choses dans son amour total. Il fera rapidement justice. Il ne nous fait pas attendre. Il va le plus vite possible. Il n'y a absolument pas besoin, pour nous, comme le faisait cette femme, d'insister, de pousser pour que ça aille plus vite, pour que les choses viennent. Non, Dieu ne fait pas attendre. Il veut donner. Il est totalement pour nous. Il ne fait pas attendre. Ça ne sert à rien d'insister. Ça ne sert à rien d'essayer de faire accélérer Dieu. Ça ne sert à rien d'essayer de forcer Dieu à agir d'une certaine manière. Il est prêt à le faire. C'est une prière inutile, finalement. Il est pour nous. Et s'il y avait le moindre doute chez la moindre faiblesse chez Dieu, ce serait peut-être logique de demander de pousser. Mais devant un tel Dieu, pourquoi pousser? Pourquoi chercher à l'influencer? Et pourtant, c'est vraiment quelque chose qu'on a de la peine à lâcher. On a une tension toujours ancrée en nous, comme humains, d'essayer de faire avancer les choses. De prier, c'est des fois fatigant de prier, d'insister, c'est lassant justement de demander des choses, elles n'arrivent pas. Et c'est pour ça qu'on se décourage, et c'est pour ça que ce côté-là est mis en évidence dans ce texte, qui ne parle pas de toute la prière, qui donne juste un éclairage. C'est parce que si on veut pouvoir persévérer dans la prière, continuer dans la prière, eh bien, il faut qu'on reste conscient il faut pas que ce soit un effort pour nous. On va se fatiguer, on va s'épuiser si on commence à porter finalement l'action de Dieu de nous-mêmes. Forcer Dieu n'a jamais servi à rien. Il est Dieu et nous sommes des hommes et des femmes. Lui sait, nous on ne sait pas. Mais cependant, Jésus nous dit, priez, persévérez, priez. Ça veut dire quoi, prier? Ici, je trouve un éclairage que je trouve intéressant. Il dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Qui crient. On est dans un monde qui est plein d'injustices. Dans nos vies, il y a des bonnes choses, mais il y a des tas de choses qui sont frustrantes, qui sont mauvaises. On n'est très souvent pas content de soi. Crier. Je crois que Dieu accueille ces cris parce que c'est des cris réels. On est vraiment dans un contexte dans lequel on est impuissant, dans un contexte dans lequel les choses ne vont pas, sont injustes. Ça engendre des cris. Eh bien, ce que Dieu dit, c'est que ces cris, il les accueille. Crier. Prier, c'est d'abord peut-être crier. Il y a un vrai besoin, l'exprimer. C'est crier à lui. Parce qu'il est le seul qui peut donner une solution. Le fondement de la prière, c'est je me tourne pas vers moi-même, mes performances, même ma prière, je me tourne vers Dieu. Crie à lui. Et très souvent, on crie contre l'injustice, on crie contre toutes sortes de choses, au lieu de crier à Dieu. Et c'est une des difficultés, et c'est une des choses qu'on nous exhorte pour continuer. C'est se fixer vers Dieu, qui est la seule vraie solution. J'écris à lui jour et nuit. Pourquoi cette expression? Je me suis dit, mais oui, jour et nuit, ça veut dire tout le temps. Ça veut dire que cette situation d'injustice, cette situation qui cause ces cris, foncièrement, elle ne va pas disparaître. Jour et nuit, toujours, tout au long de notre vie, ben, les situations qui nous font crier, elles demeurent. On ne va jamais vivre une période où il n'y a pas de cri. Il y a des périodes où on crie très fort, il y a des périodes où on oublie de crier peut-être, mais foncièrement, dans un monde si faussé, avec des hommes et des femmes, des amis, des familles, une épouse, des enfants, il y a toujours des frustrations, des difficultés, ce ne sera jamais tout rose, jour et nuit. On a besoin de crier vers Dieu. C'est pour ça que Jésus nous dit de prier sans cesse. C'est pour ça que Jésus nous dit, je ne sais plus l'expression, je retrouve, toujours prier. Je vous dis, prier, c'est crier. Mais comment prier vraiment? Franchement, la parabole, elle ne dit rien. Elle parle du juge injuste, elle parle de Dieu en contraste, elle parle de cette femme qui crie pour manipuler le juge unique. Positivement, qu'est-ce qu'elle doit faire? Il n'y en a pas un mot. Et je me suis dit, mais c'est très certainement volontaire, parce que Dieu ne veut pas enfermer notre conception de la prière. Je vous ai dit tout à l'heure, ça nous dépasse. Ben oui, ça nous dépasse, et Dieu ne veut surtout pas nous donner un mode d'emploi. Pouvoir faire, et c'est une chose qu'on a tendance à vouloir, faire la bonne prière. Et ça, c'est l'opposé de la prière. Faire la bonne prière, ça veut dire si je fais la bonne prière, Dieu agit d'une certaine manière. Si je ne fais pas la bonne prière, Dieu va agir d'une autre manière. Mais c'est une déformation de la prière. Il n'y a pas de bonne prière, finalement. Ça n'existe pas, tout simplement. Dieu veut une variété. Chaque cas est différent. Chaque cri est différent. Tu parlais des psaumes, on en a chanté un. C'est très frappant, la variété d'expressions qu'il y a dans les psaumes. C'est des cris très souvent. Mais là aussi, les psaumes sont totalement incohérents. On a beaucoup de peine à mettre ensemble. Ça nous semble aller dans tous les sens. D'un psaume à l'autre, les choses sont différentes. À l'intérieur d'un psaume, ça passe de la joie à la difficulté. C'est compliqué. Mais c'est ça, la prière. La prière, ce n'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser. Il n'y a pas de bonne prière. Et je trouve que c'est libérateur. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de chercher comment prier. Crier à Dieu. Il y a un verset dans Romains 8, verset 26, qui dit « L'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. » En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Les mots sont un peu secondaires, on emploie des mots, mais finalement, la vraie prière, c'est quelque chose que le Saint-Esprit met en nous. On ne peut pas prier autrement que de prier par l'Esprit, finalement. Il n'y a pas besoin de faire autre chose, et ce n'est pas nos mots qui importent, ce n'est pas notre façon de prier. La seule chose importante, c'est de se tourner vers Dieu, crier à lui. Et le reste, il le fait, parce qu'il est prêt à répondre. Il répond toujours la prière. Ça, c'est une chose qui me semble importante. Dieu répond toujours à la prière. Pourquoi? Mais parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous aime, parce qu'il est pour nous, parce qu'il ne tarde pas, il répond rapidement. Toujours Dieu répond à la prière. Alors on dit des fois, mais il y a des délais. Non. Moi, vous ne serez peut-être pas d'accord, mais il y a très peu d'enseignements de Jésus sur la prière. Il y a celui que je vous développe maintenant. Il y a la prière dominicale, Notre Père. Et juste après la prière dominicale, Jésus raconte une autre parabole. C'est la parabole de l'ami importun. L'ami qui est quelqu'un qui arrive chez lui de nuit, il a besoin de pain, il va chez son ami voisin, il insiste pour qu'il lui donne du pain, et puis il y a toute cette histoire. Et la conclusion de Jésus, c'est, et moi je vous dis, demandez et on vous le donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et un petit peu plus loin. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Dieu répond toujours à la prière. Ceux qui demandent, ceux qui frappent, ils reçoivent une réponse immédiate. Mais le vrai besoin, la vraie demande, la vraie réception, c'est le Saint-Esprit. Quand vous priez, quand on se tourne vers Dieu, eh bien, il donne le Saint-Esprit. Pas dire qu'on n'a pas le Saint-Esprit, on le reçoit quand on se convertit, c'est pas dire qu'il peut avoir des expériences marquantes avec le Saint-Esprit. Mais à chaque prière, à chaque demande, Dieu répond par son Esprit. Ben, c'est ce qu'on en a besoin. C'est ça qui fait. On n'a pas besoin que les circonstances soient bonnes, mauvaises, soient comme ceci, comme cela. On n'a pas besoin, dans un monde incompréhensible, que ça devienne compréhensible. On a besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il nous met en contact avec Dieu. Le Saint-Esprit, c'est celui qui... Je dirais, c'est peut-être pas une très bonne image, mais quand même, ça représente dans la Trinité celui qui crée le lien entre le Père et le Fils. Le Saint-Esprit, c'est celui qui unit, c'est celui qui rassemble, c'est celui qui permet un courant d'amour de fonctionner. Et c'est ce dont on a besoin, et c'est ce que Dieu nous donne. Il met en nous une relation avec lui. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir une relation avec lui, le Saint-Esprit qui nous unit à Dieu? Ça veut dire qu'on va penser comme Dieu. Si je suis en communion, si j'ai un contact avec Dieu, ben ça veut dire que ça me guide, ça me permet de regarder les choses avec le regard de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de communion avec Dieu. C'est l'esprit qui me fait... non seulement ressembler à Dieu, à Jésus, oui, mais ça m'unit dans ma pensée. Et c'est ce dont on a besoin face aux circonstances mystérieuses dans lesquelles on se trouve. C'est de commencer à les voir avec quelque chose du regard de Dieu. Et je crois que le cœur de la prière, c'est ça. C'est que je pense, je réfléchis, je vois les choses comme Dieu. Le sommet de la prière, ou l'exemple le plus profond de la prière, c'est celle que Jésus fait au Jardin des Oliviers. Luc 22. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, Jésus leur dit « Priez pour ne pas céder à la tentation. Priez. » Il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre, il se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois ce n'est pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Le cri, il est dans une situation qui est difficile. Et la réponse, et je pense que c'est la réponse la plus profonde qu'il peut faire, et c'est ce que l'Esprit veut faire en nous, c'est « Pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Et voyez le contraste total entre cette attitude-là, produite par l'Esprit, l'accord avec ce que fait ce Dieu Tout-Puissant, et puis le fait de vouloir piloter les circonstances. Alors, la prière est beaucoup plus vaste, et je pense qu'il y a des prières d'autorité, il y a des prières de toutes sortes, mais au fond, à la base, si vous voulez, je crois qu'on ne comprendra pas, on n'entrera pas, on ne persévérera pas dans la prière si on ne réalise pas que finalement, prier, c'est m'unir avec Dieu. Prier, c'est penser comme Dieu. Prier, c'est vouloir ce que Dieu veut et pas ce que je veux. Il n'y a pas de plus gros obstacle, je crois, à la prière. Il n'y a pas le plus gros obstacle pour persévérer dans la prière que essayer de contrôler les choses. Même par la prière, peut-être surtout par la prière, parce que si on commence à vouloir contrôler les choses en priant, avec le sentiment que je peux finalement conduire Dieu, ben on passe à côté du but central, principal de la prière, qui est « pas ma volonté, la tienne, tu es juste et tu es bon, et je veux ce que tu veux ». Voyez ? Apprenons à prier, apprenons à avoir cette attitude simplement de confiance, mais qui passe, et c'est l'enseignement de ce passage, à renoncer à vouloir contrôler Dieu. C'est facile à dire, mais c'est quelque chose qui est tellement ancré en nous, cette manière de contrôler Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si on le fait, Dieu ne va pas nous punir pour ceci. On va perdre quelque chose, on va perdre cette communion, cette réalité. Mais il s'occupe de nous. Et nos vrais besoins, ils ne tardent pas. Alors, on a deux choix. Quand on est croyant, sauvé, notre chemin final est garanti par Dieu. Mais on peut le faire malgré nous ou avec lui, volontairement. Et c'est ça la prière, c'est nous mettre d'accord avec Dieu, c'est de pouvoir poursuivre notre existence, notre vie jusqu'au bout, pas parce qu'à cause de nos performances, on y arrivera grâce à Dieu, mais avec la joie de le connaître, la confiance, la paix que ça donne d'être dans ce chemin avec lui. La prière, elle est faite pour ça, pas pour piloter, pour conduire, pour contrôler, mais pour marcher avec. Pour terminer, j'ai pensé, ça c'est l'enseignement de Jésus. Mais Paul donne exactement le même enseignement. Et il a un verset central sur la prière, c'est dans Philippiens 4. Ça dit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Criez à Dieu en toutes choses, c'est la même idée. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ce n'est pas que les circonstances vont changer, mais je vais les vivre différemment. C'est une autre manière de dire la même chose. Alors j'ai surtout insisté sur le côté renoncer à contrôler pour que ça puisse se vivre. Mais le résultat, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me permet de marcher. Il donne cette paix de Dieu. Il me permet d'être fructueux. Il me permet de refléter Jésus. Il me permet d'avoir des attitudes qui honorent Jésus. Mais il y a la paix. Et qu'est-ce qu'on cherche davantage que la paix dans ce monde? On en a besoin. Et c'est une chose que Dieu veut nous donner. Le cri et la paix. Paradoxe de nouveau. On ne comprendra jamais les choses. Mais elles se vivent. Il n'y a pas besoin de comprendre. Merci Seigneur. Alors, au niveau des questions, puisqu'on doit faire des questions, je me suis dit... Voilà. Je trouve qu'il ne faut pas fermer ces questions. Souvent, on donne des questions, puis finalement, dans les groupes, on ne parle pas de ça parce qu'on ne sait pas qu'en faire. Donc, j'ai mis un premier point. Y a-t-il un point dans ce message qui vous a particulièrement interpellé? S'il y a quelque chose qui vous a retenu, interrogé, eh bien, une occasion de le partager. Puis, je me suis dit une autre chose. Il y a des questions qu'on peut se poser qui sont peut-être plus des questions qu'on devrait se poser personnellement, réfléchir sur ce verset de Philippiens. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Est-ce qu'il y a des choses que, finalement, j'évite de faire connaître à Dieu? Des choses dans ma vie, des questions que j'ai, je ne veux pas trop que Dieu s'en mêle. Je n'ai pas envie de les confier à Dieu. J'ai réfléchi, moi, j'en ai une ou deux qui me sont venues à l'esprit. Et je pense que c'est important de réaliser ça. En toute chose, on peut être totalement honnête devant Dieu. Et puis même si on est devant Dieu avec des choses, et puis que les décisions qu'on prend derrière sont peut-être pas immédiatement ce qu'elles devraient être, mais faites-les connaître à Dieu. Il ne fait pas de reproches. Alors, si ça peut vous parler, réfléchissez. Ça nous permet d'identifier des choses qui sont peut-être délicates, qui font souffrir dans nos vies. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a des sujets où je ne suis pas en paix avec Dieu? Est-ce que j'ai vis-à-vis de Dieu des reproches, des interrogations, une amertume? Ça, moi, j'ai réfléchi, je n'ai pas trouvé, mais je trouve quand même souvent, quand on parle aux gens, on se rend compte qu'il y a des réticences sur ce que Dieu fait. Il reste des choses où ils ne sont pas en paix avec Dieu. Ils sont, d'une certaine manière, en réaction contre Dieu. C'est important de le discerner aussi dans sa vie. Je crois qu'on le dit souvent, on peut être en colère avec Dieu. Oui, si on a une émotion de colère, on a une émotion de colère. Mais ne restons pas en colère avec Dieu. C'est ridicule. C'est contre la réalité, finalement. Mais c'est important de s'en rendre compte. Et je crois que l'honnêteté vis-à-vis de Dieu, soit dans mes craintes qu'il intervienne dans ma vie, soit dans les réticences que je peux avoir avec lui, avec ce qu'il dit, avec sa parole, c'est important qu'on soit conscient. Parce qu'il veut nous guérir. Seigneur, apprends-nous à prier. Simplement, personnellement, pas par des méthodes ou non, simplement, Seigneur. Comme des enfants devant leur père. On ne donne pas des leçons aux enfants pour savoir comment ils doivent aimer leur père, comment ils doivent parler à leur père. On peut les reprendre quand ça ne va pas, mais c'est un vécu. Et je te prie pour chacun de nous qu'on vive vraiment la prière. Pas pour te contrôler, mais pour t'aimer, mais pour recevoir. Tu veux donner. Merci. On veut recevoir. Mets ça dans nos cœurs par ton esprit. Amen.